Chapitre 11. Un prodigieux cadeau. Les Grecs sont partis, la guerre est terminée. Ces cris que personne n'espérait plus entendre un jour sont enfin devenus réalité. Les gamins sillonnent les rues de Troie en poussant des hurlements de joie et en montrant la mer vide de toute voile. Si incroyable que cela puisse paraître, les Grecs ont appareillé à l'aube, abandonnant le combat. Tous à la plage, il paraît qu'ils y ont laissé une espèce de monstre gigantesque. Les rues sont noires de monde. Les Troyens dévalent les rues à toute vitesse, les yeux fixés sur la silhouette colossale qui se détache sur l'horizon blanc de chaleur. Arrivés à la lisière de la plage, ils s'arrêtent, lèvent des yeux craintifs vers l'étrange créature qui semble en effet surgir d'un autre monde. Un gigantesque cheval de bois, presque aussi haut que le palais du roi Priam, pose sur eux un regard énigmatique. D'après Laocoon, ce n'est pas un cadeau d'adieu des Grecs, mais une offrande à Athéna. Laocoon, l'un des prêtres de la cité, a sans doute eu l'information par un des prêtres grecs. Emmenons le cheval à l'abri de nos murs. Il rappellera à nos enfants et à nos petits-enfants que les Grecs n'ont pas réussi à nous vaincre et qu'ils ont dû fuir. Un peu à l'écart, Cassandre observe la scène en fronçant les sourcils. L'impression de déjà-vu qu'elle ressent face à l'immense silhouette la met extrêmement mal à l'aise. Cette construction lui rappelle tellement celle qui lui est apparue en songe cette nuit même. Elle s'approche de Laocoon. Je vous en supplie, Laocoon, pour une fois, il faut me croire. J'ai rêvé cette nuit que des soldats grecs sortaient d'une énorme statue qui ressemblait un peu à ce cheval. C'est certainement un piège, une ruse. À aucun prix il ne faut le laisser passer les portes de la ville. Laocoon, elle le sait, est le seul homme que son père acceptera d'écouter. Que va-t-il décider ? Je crois que tu as raison, dit enfin le grand prêtre. Même si tu n'avais pas eu ce songe d'ailleurs, faire confiance aux Grecs serait la dernière des imprudences. Je vais tenter de convaincre le roi. De loin, Cassandre regarde Laocoon s'avancer vers Priam et lui parler. Elle observe la mimique de son père, voit ses lèvres remuer tandis qu'il donne des ordres. Elle regarde la foule qui, après un instant de stupeur, recule de quelques pas. C'est gagné ! Quel soulagement ! Jamais depuis le début de la guerre, Cassandre ne s'est sentie aussi légère. Enfin, on la croit. On va suivre ses conseils. Troie va être épargnée. Mais les dieux n'ont pas dit leur dernier mot. Le soleil s'enfonce déjà dans la mer lorsque Cassandre se décide à monter au palais pour remercier son père de l'avoir écouté. Depuis qu'il l'a fait enfermer pour tendre à Achille un piège indigne, leurs relations ont perdu l'aisance qu'elles avaient autrefois. Mais aujourd'hui, tout peut encore changer puisqu'il a prouvé qu'il avait toujours confiance en elle. « Tu m'as trahi une fois, lui dit le roi d'une voix infiniment triste. Je reconnais cependant que tes visions sont parfois exactes. En ce qui me concerne, cela m'étonnerait que ce cheval soit une ruse des Grecs, mais il ne serait pas raisonnable de prendre le moindre risque. Maintenant, Cassandre, les Troyens doivent oublier ces années de souffrance pour regarder vers l'avenir, et je les y aiderai. » La jeune femme comprend ce que son père vient d'exprimer à mots couverts. Troie doit oublier, mais elle aussi doit oublier le conflit qui les a opposés, car elle le regrette et fera tout pour effacer ses mauvais souvenirs. Cela signifie que l'amour de son père pour elle est intact, et d'ailleurs elle le lit dans ses yeux. Qu'importe alors qu'il lui ait un jour refusé sa confiance, puisque la paix est revenue entre eux. Elle tend la main pour prendre celle de son père et la baiser lorsque des coups précipités sont frappés à la porte. Avant même que le roi ait pu réagir, un garde surgit, traînant derrière lui un homme en loques. « Roi Priam, protège-moi !» crie le malheureux. « Je suis un Grec, un cousin d'Ulysse. Ils voulaient me sacrifier aux dieux pour s'assurer leur protection durant la traversée du retour. Je me suis enfui à la nage, mais j'ai été blessé. Je vous supplie de m'offrir l'asile. » Même Cassandre n'a aucune raison de s'opposer à ce que l'on recueille ce misérable. Que pourrait tenter un homme seul ? « Profitons-en pour lui demander quelques éclaircissements à propos du cheval, » souffle-t-elle dans l'oreille de son père. « Telle était mon intention, » lui répond le roi. Il fait apporter de la nourriture, offre à boire aux blessés, puis l'interroge. « Pourquoi avoir construit un animal si gigantesque ? Athéna se serait sans doute satisfaite d'une statue de taille plus raisonnable. » Le fugitif laisse échapper un cri amer. « Une statue plus petite aurait facilement passé les portes de votre ville. » Or, il ne voulait pas que vous puissiez vous emparer de leur offrande. Ce mastodonte, au contraire, restera en permanence devant vos yeux comme un défi, pour vous rappeler que vous n'avez pas réussi à nous battre, que nous sommes partis de notre plein gré, et que jamais vous ne mettrez la main sur ce qui nous appartient. Le roi s'emporte. « Un défi ? C'est intolérable. Pour qui se prennent donc les Grecs? Puisque c'est ainsi, il va leur prouver que les Troyens sont plus forts et plus habiles qu'eux, et que rien ne leur est impossible. À défaut d'avoir vaincu sur le champ de bataille, l'honneur des Troyens veut qu'ils s'emparent du cheval. Cassandre est accablée. Voilà que tout recommence. Quand donc le roi cessera-t-il d'être le jouet des événements? Comment cet homme qu'elle estime peut-il se laisser provoquer de façon aussi stupide? Ne faites pas cela, père, supplie-t-elle. Elle appelle Laocoon à la rescousse. Le prêtre, qui partage l'opinion de Cassandre, discute, argumente. Il supplie le roi de laisser les Troyens décider, car il garde l'espoir de les convaincre de la traîtrise des Grecs. Priam se laisse fléchir. Tous ensemble, ils sortent du palais et gagnent la plage, où Laocoon se met à haranguer la foule. D'abord hostile, celle-ci semble peu à peu se laisser persuader. « Il a raison, c'est trop risqué !» entend-on fuser à plusieurs reprises. Mais soudain, alors que la partie semble gagnée, deux énormes serpents surgissent de la mer et rampent vers le prêtre. La foule atterrée se fige et impuissante assiste à cette scène terrifiante. Les serpents forment un cercle autour de Laocoon, puis lentement, inexorablement, lancèrent dans leurs anneaux glacés, tandis qu'il continue à vituperer. Sa voix s'étrangle, se transforme en murmure, se tait, et un silence de mort se répand sur la plage. « C'est un signe des dieux, décrète le roi. Par cette mort effroyable, ils ont voulu nous montrer que nous les offenserions en suivant les conseils de Laocoon. Qu'on fasse entrer le cheval !» Après l'accomplissement d'un tel prodige, Cassandre comprend qu'il est inutile de lutter. Elle s'éloigne rapidement pour ne pas assister au transport du cheval. Mais elle ne peut éviter d'entendre les cris des hommes, les encouragements des femmes, le fracas des pierres que l'on brise parce que les portes de la ville ne sont pas assez hautes pour laisser passer le cadeau empoisonné. Et plus tard, longtemps après que la nuit est tombée, l'écho de la fête lui parvient jusqu'à ce qu'elle résonne à ses oreilles. Jusqu'à elle, résonne à ses oreilles comme un glas. Vient un moment pourtant où un sursaut d'espoir la fait douter de ses certitudes. Et si son père avait raison, si elle était réellement une espèce d'hallucinée prenant plaisir à prédire des catastrophes, cette nuit elle serait prête à renoncer à ses ambitions, à rendre à Apollon le cadeau qu'il lui a fait, si en échange, Troie pouvait être épargnée.